Je ne parle pas de nulle part ou de n'importe où. Dès lors que je m'adresse à mon invité ou à vous, il me semble important de me souvenir et d'assumer et de vous dire d'où je parle, de quel endroit, même si je préfère le questionnement à l'affirmation ou au jugement, même si je m'efforce de ne jamais prendre parti ou très rarement, même si c'est malgré moi, je ne parle pas de nulle part. Je parle d'abord d'un endroit de pouvoir qui est ce studio que j'occupe tous les matins, ce studio d'une chaîne publique nationale. Je parle dans ce micro qui est depuis 8 saisons, 1522 émissions, un amplificateur de voix, une caisse de résonance, un catalyseur qui me propulse vers une large audience et dans une position de fait de dominant. Je parle depuis une classe qui est sans doute la bourgeoisie. Je parle en tant qu'homme, c'est assez évident, en tant qu'homme blanc de 42 ans. Je parle depuis le monde dans lequel j'ai grandi, quand bien même comme tout le monde, je m'en suis un peu émancipé depuis la banlieue ouest, les paysages d'Auvergne et le centre de Paris, avec un détour par l'Angleterre et les États-Unis. Je parle depuis tout ce qui m'a construit, mon éducation, ma formation d'enseignant, mes lectures, mes rencontres, une multitude de gens, tout ce qui fait mon encyclopédie. Je parle aussi depuis les marges d'une sexualité qu'on n'a pas toujours forcément accès. Je parle depuis une multitude d'identités que j'ai pas forcément choisies mais avec lesquelles je compose. Vous dites peut-être que ça devrait pas s'entendre, mais soyons honnêtes, à défaut d'être transparents, quand on prête l'oreille, tout s'entend.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui nous parle d'un endroit différent du mien. Elle est comédienne, icône des années 90-2000, révélée par Olivia Sayas dans L'eau froide. Elle a joué chez Claude Chabrol, Ducastel et Martineau, François Ozon, Danny Boyle ou encore Benoît Jacquot. On la retrouve dans Nona et ses filles, la série 2 et avec Valérie Donzelli, actuellement sur Arte, aux côtés de Miu Miu et de Clotilde M notamment. C'est une histoire aussi loufoque que touchante à la gloire de la liberté des femmes. Bonjour Virginie Ledoyen.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup. Merci à vous. Ce matin, de quel endroit est-ce que vous avez envie de nous parler ce matin ?
Moi, je vous parlerai de l'endroit où est Nona. Je ne vous parle pas d'en haut, je vous parle d'en bas. Je vous parle d'un endroit où la peur, la responsabilité et la culpabilité s'entremêlent. D'un endroit où l'on est seul pour affronter les hommes. D'un endroit où l'on n'est ni la maman ni la putain. Je vous parle d'un endroit que vous, les hommes, ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la douleur des règles ni celle de l'accouchement. Vous ne connaissez pas l'injonction d'être mince, d'être belle, d'avaler des pilules pour ne pas avoir d'enfant, d'être épilée, bien habillée, pas trop long, pas trop court, pas trop surtout. Mais pas trop quoi ? Être une femme sans être une menace, être une femme en restant à sa place, mais laquelle ? Celle donnée par les hommes dans un cadre restreint ? Je vous parle d'un endroit qui n'existe pas. D'un endroit pour lequel je me suis battue. Le droit d'avoir ou non des enfants. Le droit d'avoir une sexualité libre. Mais je suis enceinte à un âge où ça n'arrive plus. Je croyais pouvoir baisser la garde, jouir en toute liberté et rompre enfin avec la peur, la responsabilité et la culpabilité. Aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement que d'avoir cet enfant. Je dois aller au bout et le mettre au monde. Je ne le connais pas, je ne le voulais pas, mais il vit en moi et commence à me charmer. Je vous parle aussi de cet endroit, celui de l'ambivalence interdite. Aimer ses enfants avant même qu'ils naissent et vouloir garder sa liberté. Allaiter et vouloir retrouver son corps. Être mère et regretter sa vie d'avant. Dans cet endroit, nous n'avons pas le droit de nous interroger, ni de douter, sans se sentir coupable. Je vous parle d'un endroit que les hommes ne connaissent pas. C'est certes l'endroit de la peur, mais aussi celui de la puissance matricielle. Cet endroit, vous pourriez y venir. Vous pourriez avoir la curiosité de voir ce que nous y voyons. De la liberté, de la sororité, de la solidarité. Un endroit où l'on ne sait ce que c'est de risquer sa vie pour donner la vie. Un endroit où l'on n'est pas une, mais plusieurs. Un endroit de sédimentation, d'addition, où l'on doit se battre pour les mêmes salaires, les mêmes responsabilités, pour ne pas se faire tuer par un amant qu'on quitte ou un mari jaloux. Je vais vous dire une chose, messieurs, vous perdrez. Vos avantages, vos privilèges, c'est dur, je vous comprends. Mais ne soyez pas immatures. Vous avez été gâtés et c'est fini. N'ayez pas peur. Laissez-nous vous aimer comme des hommes et pas comme des enfants. Cette infime perte pour vous est en réalité une immense avancée vers une société équilibrée, où la honte n'aura plus sa place. Chaque pas sera une marche vers un peu plus de justice, d'égalité et de fraternité. Je vous parle d'un endroit que je n'ai pas choisi, celui de mon sexe, c'est ainsi. Je suis née avec ce sexe et je me suis construite volontairement avec l'identité d'une femme, de 0 à 70 ans. Ce soir, j'aime être cette femme, plus ralentie, plus en retrait, mais pas moins humaine, pas moins mère, pas moins grand-mère, pas moins amoureuse. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, agglutinée en bas de chez moi à mes pieds. Je ne sais pas à quoi vous serviront vos téléphones, vos caméras, vos papiers. Mais je sais qu'il faut que je vous parle à toutes, à tous. Alors courage, tenez ferme la barre. L'horizon est enfin dégagé. Voici permis à nouveau toute audace de la vie en commun. Alors n'ayez pas peur. Faites l'amour, faites des enfants, ayez de grands rêves. Construisez votre vie, comme vous voulez, soyez libre. Vous ne serez pas parfaite, vous ne devez pas être parfaite. Personne ne l'est.
Quel texte, Virginie Ledoyen, cette adresse, pourquoi c'était important pour vous de la faire entendre ce matin?
Alors, pour plein de raisons. D'abord, c'est je suis là aujourd'hui dans le cadre de Nona et ses filles, et c'est un monologue que Nona prononce, que je trouve beau, que je trouve émouvant, que je trouve juste, et qui, je trouve, interroge aussi pas seulement le fait d'être une femme, mais le fait de... On nous demande souvent maintenant, alors c'est quoi être une femme? Est-ce que vous êtes féministe? Est-ce que vous êtes militante? Alors ça fait plein de questions à laquelle on va répondre oui à chaque fois, et puis en fait ça veut pas dire grand-chose. Et là c'est comme si elle mettait des mots, vraiment des mots sur... Oui, sur ce que c'est d'être une femme, ce que c'est de s'inscrire dans le monde en tant que telle, ce que c'est de se raconter en tant que telle.
Oui, et c'est un texte dit par Miu Miu hein, dans la série, qui dit que le combat pour la liberté des femmes, le combat pour l'égalité aussi, ils sont loin d'être encore gagnés. Quand est-ce que vous en avez pris conscience de ça, vous, Virginie Ledoyen?
Mais assez vite, en fait. C'est-à-dire que d'abord, le combat commence aujourd'hui, parce que beaucoup de choses ont été faites par nos mères et nos grands-mères. Mais on va commencer par l'égalité des salaires, qui est une chose très tangible, très concrète, qui pour le coup parle à tout le monde, où on n'a pas besoin de mettre des grands, grands mots. Ça passe par le regard qu'on porte sur les femmes, ça passe par aussi le regard que les femmes portent sur les hommes. Non, je trouve qu'il est, partout, quoi.
Vous parlez de la génération de votre mère, on pourrait parler de celle de votre fille. Quel regard, justement, est-ce que vous portez sur cette nouvelle génération qui parle fort et qui se fait entendre?
C'est-à-dire que elle me renvoie au fait que nous, on est une génération, la nôtre, d'un entre-deux, en fait. Où effectivement, nos mères ont été militantes. Et puis nous, on est passé un peu, voilà, C'était fait, donc on a un peu surfé sur la vague. On est un peu une génération hybride, en fait.
En acceptant aussi, c'est intéressant parce qu'on en parlait récemment avec la réalisatrice Ovidie et l'autrice Pénélope Bagieu à ce micro, adolescente comme vous dans les années 90 et qui disait avoir grandi dans une époque qui banalisait encore les violences faites aux femmes et où notion de consentement, par exemple, était pour ainsi dire absente.
Totalement absente. Et quand je vois aujourd'hui des jeunes gens de 20 ans qui sont dans la rue pour le climat, moi je suis complètement passée à côté de... Enfin, je suis passée à côté de ça.
Mais vous en avez subi l'expérience, vous avez subi le poids, en fait, dans votre métier de comédienne, de ce patriarcat, vous, Virginie Ledoyen?
Oui et non, en fait. J'en ai eu aussi des avantages. Non, mais parce que... Être actrice, c'est une notion d'interprète, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si on se mettait au service d'un metteur en scène et qu'on devenait un peu le vecteur de sa pensée. Il se trouve que les rôles de femmes, parfois, sont... ou de femmes, ou de jeunes femmes,
oui.
Puisque pour le coup...
Et vous avez commencé à 15 ans, il faut quand même le dire, très jeune. Ça n'a pas dû être évident, quand même, de se retrouver si jeune dans une industrie dominée par des hommes, souvent beaucoup plus âgés que vous.
Oui, alors moi, j'aimais bien, curieusement. J'ai pas la sensation d'avoir été abusée. Et puis, à l'inverse, c'est-à-dire que quand j'étais jeune fille actrice, il y avait ce petit côté de la muse,
oui.
qui était très, au-delà de flatteur, mais qui était très porteur, en fait.
C'est intéressant. Vous dites souvent que l'image de la jeune fille était souvent associée à quelque chose de très érotique.
Oui, c'est assez érotique, que ce soit au cinéma ou dans la littérature même. Oui, parce que c'est des projections, c'est des seuils, en fait. C'est le passage entre l'enfance et l'âge adulte, qui est une chose assez troublante, qui dure pas très très longtemps, d'ailleurs, c'est quelques années. Donc c'est assez beau à filmer, par ailleurs.
La question de l'âge, elle est passionnante, particulièrement au regard de la série de Valérie Donzelli, Nona et ses filles, qui met à l'honneur le désir et la liberté d'une septuagénaire, jouée par Miu Miu. Donc, l'âge, qu'est-ce que ça représente pour la comédienne que vous êtes?
C'est mystérieux. Je sais pas, en fait. Je sais l'âge que j'ai. Hein.
Je veux dire, c'est une angoisse?
Non, c'est pas une angoisse. Non, pas encore. Enfin, j'espère pas. Après, c'est vrai que il y a quand même. On écrit beaucoup pour les jeunes femmes,
oui.
et on peut avoir envie d'écrire, enfin d'avoir des rôles pour en tout cas pour une femme de mon âge. Et c'est vrai que dans Nona et ses filles, on a clairement notre âge. C'est-à-dire qu'à l'époque on avait 44 ans, donc Ces filles ont 44 ans.
Mais vous savez, je me souviens d'une conversation avec Emmanuel Béart, avec qui vous avez tourné d'ailleurs dans 8 femmes, oui, de François Ozon, qui avait expliqué à ce micro s'être éloigné des plateaux de cinéma, d'abord parce que passé un certain âge, les propositions de scénario devenaient moins intéressantes, mais aussi parce que le cinéma a tendance à vous figer dans l'image de celle que vous aviez été.
Oui, alors oui et non, parce que en même temps, il y a des actrices qui traversent le temps, qui sont à la fois toujours les mêmes. Je parle pas de physique, je parle pas de traits, je parle pas de rides, pas de rides, etc. Je parle d'incarnation, de force, de présence, et qu'elles aient 20 ans ou qu'elles en aient 50 ou 60, peu importe, leur incarnation est telle que c'est pas une question de temps. Mais elles ont des personnages pour ça. Je pense à Isabelle Huppert, je pense à Catherine Deneuve. On se pose pas la question du temps en termes de physique.
Oui.
Elles sont là, clairement là, quoi. Et elles existent. Elles traversent l'écran, quoi.
Pour autant être regardée, être scrutée, être filmée, être figée, Virginie Ledoyen. Quelle violence est-ce que c'est, parfois?
Être figée, ben je trouve pas que justement le cinéma fige. Le cinéma, c'est du mouvement, c'est perpétuellement du mouvement.
C'est de l'image en mouvement.
C'est de l'image en mouvement, donc je crois pas que ça fige. Violent, moi c'est quelque chose que j'aime. Alors peut-être moi j'ai l'impression que lorsque je tourne plutôt, ce moment entre pas les répétitions, pas vraiment entre le moteur et le coupé, c'est comme un petit coma, il y a une forme d'abandon que j'adore, en fait, et que je m'explique pas très rationnellement, mais que j'adore.
Vous savez qu'il y en a une qui ne se fige pas du tout dans cette émission. Virginie, vous la connaissez, c'est évidemment la culture.
Ah,
et son actualité,
bien.
Sans cesse en mouvement. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 14 décembre? Plein de Français au Globe Doré, la nomination pour la 79e cérémonie des Golden Globes vient d'être dévoilée et elles nous font la part belle. Marion Cotillard a été retenue pour Annette de Léos Carax, de même qu'Omar Sy et Tahar Rahim pour leur rôle dans les séries Netflix Lupin et le Serpent. L'immense compositeur Alexandre Desplat sera aussi de la partie pour la musique de The French Dispatch de Wes Anderson, tout comme les films Flea, Ma famille afghane, Coda, ou encore Un héros de Asghar Farhadi, produit ou coproduit par des Français. Résultat le 9 janvier prochain à LA. L'épidémie n'est pas finie, c'est ce slogan historique d'ACT UP qui a été retenu comme titre de la grande exposition que consacre le MUCEM de Marseille à l'épidémie de sida, réunissant des tracts, des banderoles, des objets militants, mais aussi des photographies et des œuvres d'art. L'événement retrace plus de 40 ans de lutte contre le virus, interrogeant les dimensions politiques et sociales de la maladie, ainsi que son héritage à travers les générations, les territoires, les cultures. C'est jusqu'au 2 mai prochain, on lâche rien.
I gotta add this to my Tinder profile.
Miraval et Merveille, endroit mythique des années 70 qui a vu défiler les plus grands, de Pink Floyd à The Cure en passant par AC/DC ou Sting. Les studios d'enregistrement de Miraval dans le Var vont rebrancher leurs enceintes dès cet été. Inutilisés depuis 20 ans, ils viennent d'être rénovés et modernisés par le producteur français Damien Quintard et un certain Brad Pitt. L'acteur hollywoodien qui se trouve être le propriétaire du château de Miraval où se situent les studios, avec un système de son entièrement repensé, l'endroit rebaptisé Studio One pourra héberger des groupes et des artistes dès le mois de juin, on n'est pas bien là.
Cette histoire, elle commence un peu par hasard.
Et enfin, on ne l'arrête plus. Déjà lauréat de plusieurs prix littéraires cet automne, dont l'Interallié, le journaliste et écrivain Mathieu Palin vient de remporter le prix des étudiants France Culture Télérama grâce à son livre puissant « Ne t'arrête de courir » publié aux éditions de l'Iconoclaste. L'auteur de 33 ans y esquisse le portrait fascinant de l'athlète Toumani Koulibaly, coureur médaillé le jour et braqueur la nuit. Un texte du réel qui interroge les déterminismes sociaux et les mécanismes du système judiciaire français. Et Virginie Ledoyen, invitée de Boomerang ce matin pour la série très réussie, je dois dire, de Valérie Donzelli, actuellement sur Arte, Nona et ses filles. Valérie Donzelli, qui vous avait déjà dirigé dans son film Notre-Dame il y a 2 ans, d'un metteur ou d'une metteuse en scène, qu'est-ce que vous attendez, vous, au juste ?
Un point de vue, en fait. Enfin, voilà, après, que je partage ou que je partage pas, d'ailleurs, d'une certaine façon, ça m'intéresse pas des masses d'adhérer. Alors, il y a peut-être des choses qui seraient impossibles, mais en fait, je crois pas. J'aime quand un cinéaste a quelque chose à raconter et c'est plus fort que lui, en fait.
Ça veut dire que jouer la comédie, Virginie Ledoyen, incarner un rôle, c'est aussi s'abandonner à un regard, à celui ou celle qui vous dirige, qui vous dit action.
Ah, pour moi, ce n'est que ça.
On ressent quoi quand on s'abandonne?
Ça, je sais pas, c'est une espèce de c'est là un centre de gravité qui se déplace, en fait.
Cette sensation, quand pour la première fois l'avez-vous ressentie, vraiment?
Enfin, c'était très ludique pour moi de jouer la comédie. Il y avait ce côté, on me maquille, on me déguise. Enfin voilà, c'était très très ludique. Et c'est vrai que de manière plus intellectualisée, quand j'ai fait un film avec Olivier Assayas, j'avais 16 ans, qui s'appelait L'eau froide, où soudain le cinéma pour moi est devenu aussi quelque chose de collectif. C'est-à-dire que c'était pas seulement mon personnage que j'allais jouer. Le plus sérieusement possible, j'entends. Mais c'était justement cette idée de se mettre au service de quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on devient une marionnette, un pantin, et qu'on n'a pas, on n'a pas de sensibilité, pas d'avis sur
oui,
ce qu'on
fait. Oui, parce que vous parlez de collectif, de toute façon, donc c'est au service de quelques-uns aussi.
Au service de quelques-uns, et puis surtout qu'on ne peut rien faire sans les quelques-uns.
Ouais. Au fond, qu'est-ce qui vous destinait à embrasser une carrière de comédienne?
Alors, j'en sais rien, mais... je n'ai jamais fait autre chose que de jouer la comédie depuis que je suis enfant, en fait.
Mais où est-ce que vous avez grandi?
Alors, j'ai grandi à Paris 18e, puis Aubervilliers, puis j'ai fait par hasard, je m'en souviens évidemment pas puisque j'étais bébé, des photos de pub. Bon, bah là, jusque-là, c'est pas moi qui le souhaitais. Par une copine de ma mère, tiens, il cherche un bébé, enfin bon, bref. Et puis comme ça, puis le temps a passé, je faisais des petits castings, je faisais des pubs, des
soucis. Et c'était quel genre de famille, Virginie Ledoyen? Parce qu'il est beaucoup question de famille dans Mona et ses filles.
Moi, ma mère, elle m'a eu très jeune, elle avait 18 ans quand je suis née. Elle est d'origine espagnole, de milieu très modeste, populaire. Mon père, ils sont issus d'une famille de 10 enfants. Il n'a pas vraiment connu ses parents. Il travaillait sur les marchés, donc j'ai grandi pas mal sur. Donc je vivais à Aubervilliers. L'été, mes parents faisaient les marchés en France. On déballait le matin. Enfin, j'en sais, une famille comme ça très très vivante.
C'est quand même assez passionnant qu'au cinéma, on vous ait fait jouer des femmes d'un certain milieu assez bourgeois. Je pense tout de suite à Tout ce qui brille, ou même encore à Mona et ses filles dans une certaine mesure. Comment vous l'expliquez ça?
Oui, alors c'est marrant. Bah écoutez, je vais mettre ça sur mon grand talent d'actrice. Non, d'abord le cinéma français est assez bourgeois.
Oui, c'est vrai.
Quand même. Je sais pas.
C'est passionnant, ça veut dire qu'il parle de lui, en fait.
Bah, souvent, oui. Souvent. De toute façon, le cinéma ne parle que de lui, et des fois mieux que d'autres. Mais j'ai aucune idée, je sais pas. Mon nom de famille, peut-être, qu'elle a l'air un peu bourgeois. J'ai aucune idée.
Dans votre famille, quelle place avait le cinéma?
Alors, mon père est un grand cinéphile. Et quand j'étais petite, au-delà que parfois je faisais de la pub, etc., c'est vrai qu'il m'emmenait au cinéma tout le temps.
Voir quoi?
Ce que lui aimait voir. Donc c'est vrai que j'ai commencé à voir des films de Woody Allen, par exemple, j'avais 7 ans. Et c'est marrant parce que je me souviens d'avoir été voir Anna et ses sœurs, donc je devais avoir 9-10 ans, j'ai à peu près rien compris. Et je parle d'Anna et ses sœurs parce que ça me fait penser à Nona et ses filles.
C'est vrai?
Oui, je trouve que dans les problématiques familiales, il y a entre les sœurs et tout ça, il y a quelque chose de commun.
Mais vos parents, qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous leur avez annoncé que vous vouliez être comédienne? Parce que ce désir, il est venu très tôt, en fait.
Il est venu très tôt. Ils m'ont pas dit particulièrement ni oui ni non, c'est-à-dire qu'ils m'ont laissé faire.
Au point de vous laisser partir, d'ailleurs, à 15 ans?
Oui.
Ils ont pas eu peur?
Non, je crois pas. Enfin, certainement. En tout cas, ils se sont bien gardés de me le dire. J'étais déjà indépendante aussi financièrement. Je gagnais ma vie, donc je pouvais payer mon loyer. C'était pas, je pars pas à 15, j'ai pas claqué la porte en disant, oh, j'aime pas être ici. Mais j'avais une soif j'ai toujours voulu être grande.
Et vous n'avez pas peur, justement?
Pas du tout. Pas du tout, j'en rêvais.
C'est à ce moment-là que vous avez décidé de changer de nom, de devenir Ledoyen, justement?
Non, ça c'est plus petite. C'est, le premier film de cinéma que j'ai fait, j'avais 9 ans. Et mon père, je sais pas quoi, il y avait des contrats, etc., m'a demandé si j'aimerais porter le nom de sa mère. Parce qu'il se trouve que Ledoyen, c'est le nom de ma grand-mère paternelle, que mon père n'a pas connue. Et la légende dit qu'elle était comédienne amateur. Et est-ce vrai, est-ce pas vrai, je sais pas. Et c'est vrai que je trouvais ce nom hyper joli. Puis il y avait, voilà, symboliquement, c'était beau que quelqu'un dans cette famille porte le nom de cette femme.
Et vous le referiez aujourd'hui?
Oui. Ouais.
En tout cas, c'est intéressant parce que d'une certaine façon, votre parcours, il entre en écho avec ce qui est au cœur de la série Nona et ses filles, se saisir de sa liberté, être libre envers et contre tout. Virginie Ledoyen, entre nous, est-ce qu'il y a un prix à payer quand on souhaite être libre?
Ah bah, tout dépend de quel côté de la planète on est né, en fait, vraiment.
Certes.
Non, je crois pas. Je crois pas parce que le prix à payer, je crois que le prix est beaucoup plus lourd. lorsqu'on prend pas sa vie en main. Je crois que c'est plus lourd, ouais.
Quand est-ce que vous vous sentez libre, vous? Plus libre que jamais?
Mais moi, je me sens libre, je me sens pas aliénée. Alors après, j'ai mes contradictions, j'ai mes névroses, j'ai ma culpabilité, etc. Mais je me sens libre quand je suis avec mes enfants, par exemple. Je me sens libre quand je tourne.
Dans cet état de coma dont vous nous parliez tout à l'heure.
Oui, mais c'est des petits comas un peu contrôlés quand même. C'est-à-dire que on sait à peu près ce qu'on fait. Je me sens relativement libre, je dois dire.
J'aime bien cette expression, relativement.
Oui, évidemment.
On va reparler évidemment de liberté juste après. Une voix qui enchante la série Nona et ses filles, c'est celle de John Baez, Donna Donna en 1960 sur son album du même nom, France Inter, Virginie Ledoyen, Boomerang, évidemment.
On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye, high above him there's a swallow. Winging swiftly through the sky, how the winds are laughing, they laugh with all their might, laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Donna, 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 Donna. The swallow so proud and free.
Vous savez, on est quelque part entre Fanet, la petite fille aux allumettes, et Mona Lisa. Le regard flamboyant, le sourire, parce que je le vois bien. Et où l'on sent poindre un je ne sais quoi d'énigmatique, tout en noir jusqu'au masque, compris ce matin Virginie Ledoyen, invitée de Boomerang pour son rôle dans Nona et ses filles, celui d'une femme assez rangée, somme toute, et qui a pris le contre-pied du modèle maternel incarné par Miu Miu, militante du planning familial, très libre, peu soucieuse des conventions. À quoi ça tient pour vous un bon personnage, tiens?
À comment on vous filme. J'en reviens toujours à la même chose, hein, mais moi je pense qu'un scénario c'est comme un document de travail. C'est donner un scénario à quatre metteurs en scène différents, vous aurez quatre films totalement différents. Donc c'est vraiment l'impulsion qui est donnée par le cinéaste.
Ça veut dire, si je vous entends bien, que vous n'allez pas chercher un personnage, un caractère, mais vraiment le regard d'un cinéaste. Oui, c'est comme ça que vous choisissez, en fait.
C'est comme ça que je choisis, mais c'est comme ça aussi qu'ensuite le personnage se construit. C'est-à-dire que c'est pas seulement le cinéaste, et puis on verra bien. C'est-à-dire que c'est lui aussi qui donne une teinte,
oui,
et une couleur à ce qu'on va interpréter.
Précisément, qu'est-ce que vous donnez de vous ? Qu'est-ce que vous mettez de vous dans un rôle, dans un personnage, Virginie Ledoyen ?
Ben, j'imagine tout. Je pense tout, mais c'est tout et c'est rien à la fois. C'est-à-dire que c'est pas si conscientisé que ça.
Par exemple, si on prend le film d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau, Jeanne et le garçon formidable, qui est un film qui m'a beaucoup marqué, qui a marqué ma génération. Qu'est-ce qu'il y avait de vous dans ce personnage de Jeanne ?
Alors, à la fois, j'étais à des milliards de kilomètres de la vie de cette jeune fille, de cette jeune femme, et en même temps, je me le suis... ils me l'ont offert, en fait. Ils me l'ont vraiment offert, ils me l'ont donné. Donc, je l'ai pris avec un plaisir inouï. Et je sais pas, j'imagine que... une sorte de fantasme aussi, c'est comment je fantasmais cette jeune femme, parce que c'est ça aussi de jouer des personnages, c'est aussi se mettre à vouloir surtout quand ils sont très différents de vous, c'est-à-dire que ah mince, j'aime bien cette fille en fait, elle me plaît bien, donc on transpose, oui, je sais pas, une sorte de fantasme.
Vous parlez de fantasme, donc vous parlez de regard, avec vous il est toujours question de regard, Virginie Ledoyen, écoutez voir.
Alors,
je touche du bois, je crois qu'elle est pas mal.
Mais qu'est-ce qu'il te faut ?
Mais elle parle pas de la télé, crétinus.
C'est parler de la nouvelle bonne, mon cher.
Mais Kouka, t'as pas honte, la bonne, c'est humiliant.
Ah, comment faut-il l'appeler ?
Sophie.
Sophie, c'est joli. Ça veut dire sagesse en grec, vous le saviez ?
Tu sais, après qu'on se soit parlé au téléphone, j'ai acheté un tac au tac. J'ai gagné comme si c'était le prix du billet. Je me suis dit que c'était un signe.
Bon, tu viens ?
Non.
Quoi, tu vas rester là toute la matinée ?
Je reste là si ça me plaît.
Tu veux qu'on s'engueule, c'est ça ?
Tu le sais qu'on va se quitter.
Mais non, non.
Mais tout le monde se quitte. On est tous abandonnés.
Moi, je t'abandonne pas.
Excusez-moi, je vais descendre là.
De toute façon, ce genre de relation, ça m'emmerde, Gabrielle. Alors, puisque t'aimes bien travailler, travaille, mais travaille tout seul. Et moi, tu m'oublies.
Baby, regarde mes mains tremblent. Sous ma peau, tu respires. Et dans tes bras, je brûle comme lampe. Dans tes yeux, je chavire. J'suis accro à ton corps. J'suis retors à ton cœur. J'suis accro à ton corps. Et je rêve de corps à cœur.
Tu me rappelles, je t'aime.
Mais l'amour, ça n'a jamais sauvé personne.
Moi, j'y crois.
Pas moi.
T'es dur, tais-toi.
C'est pas moi. Ma maladie. Viens, embrasse-moi.
Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi.
Would you like to come to the beach with me? Je regrette déjà de te quitter, mais... de regret si je ne le faisais pas.
Je vais partir puisqu'il le faut.
Ne dis plus rien.
Ne laissez pas que je vous abandonne.
Mais vous l'avez fait.
Ce qui est intéressant quand même, quand Virginie Ledoyen, c'était de voir que si souvent, depuis vos débuts, on vous avait chanté au cinéma. Et c'est encore le cas dans une scène de Nana et ses filles. Comment vous l'expliquez, ça ?
En fait, je crois qu'au cinéma, parfois, par la chanson... on peut dire des choses qu'on ne peut pas écrire en dialogue. Et c'est un vecteur d'émotion hyper fort.
Et dans quelle mesure, vous, en tant que comédienne, vous ne vous sentez jamais plus vulnérable que lorsque vous chantez ?
Le chant, je trouve que c'est d'une intimité folle, quoi. Parce que sa voix, on la connaît pas. En fait, on la connaît pas, sa voix. On croit la connaître. Mais parfois, on vous dit, ah, t'as une voix. Alors, moi, évidemment, on me dit tout le temps que j'ai une voix grave, etc. Je pourrais même croire que j'ai la voix aiguë. Donc, faut le faire. Donc, en fait, quand on chante, on n'a pas d'autre choix. À un moment donné, on a des retours, etc. On s'entend. Donc, il y a une espèce de mise à nu que je trouve, que je trouve folle, quoi. Alors que lorsqu'on joue, on est accompagné par des dialogues, par des mouvements, et puis par des acteurs, par d'autres acteurs, on n'est pas tout seul non plus, hein. Donc,
au fond, qu'est-ce que ça raconte, une voix?
Moi, je crois que ça raconte tout.
La vôtre, qu'est-ce qu'elle raconte, par exemple?
Ça, je vous le dirai pas.
Comment vous l'avez vu évoluer avec le temps?
Mais je ne l'ai pas vu évoluer, je crois encore que j'ai la voix aiguë, moi. Donc, pour vous dire à quel point j'ai... j'en sais rien.
Mais quand même, quelquefois, vous tombez sur des films... Là, on en a entendu quelques-uns.
Mais là, je trouvais que j'avais... J'ai vu ma voix changer, quand même. Mais parce que le temps passe. Donc, j'entendais... par exemple, j'entendais l'eau froide, et il y avait quand même plus de juvénilité, de... Oui, enfin, je sais pas si c'est les graves, je sais pas dans quelle mesure c'est la voix en tant que telle, mais en tout cas, il y a aussi ce qu'on vit qui se met dans la voix.
Quand est-ce que vous avez compris, Virginie Ledoyen, que votre voix, c'était peut-être l'une de vos plus grandes forces en tant que comédienne? Peut-être, est-ce qu'on vous l'a dit?
Oui, alors on me l'a dit, mais c'est pas, je le réfléchis pas comme ça.
Pour autant, diriez-vous que un comédien, une comédienne, avant même d'être un corps et un regard, c'est peut-être d'abord une voix?
Oui, c'est une voix, mais c'est la voix, c'est la justesse, c'est le premier, c'est comme le premier wagon qui vous emmène vers un personnage.
Et c'est vrai que quand on chante, on doit être juste.
C'est mieux.
Qu'est-ce qui fait la justesse pour vous d'un jeu?
Oh là là, c'est compliqué. Puis c'est presque péremptoire de dire ça, mais je dirais que c'est la compréhension de ce qu'on est en train de faire.
Merci Virginie Ledoyen,
merci à vous
d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Nona et ses filles de Valérie Donzelli, avec Valérie Donzelli, Miu Miu, Clotilde M, Léonie Simaga, Michel Villermoz notamment, est actuellement disponible sur le site d'Arte jusqu'au 14 janvier. C'est délicieusement absurde, c'est poétique, c'est drôle. Et pour les fêtes de fin d'année, ça mange pas de pain. Tout de suite, les médias, Sonia De Villar et son Instant M, juste après ça.
Je dis se perd dans le silence, dans les espaces et le flou. Nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Et s'embrouille les choses que l'on laisse pour ne pas devenir fou. Mes yeux sont de